bienvenue à la 4e édition du congrès virtuel de FT. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir, et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Ce soir, nous sommes ensemble pour une conférence sur le thème de l'EFT et la psychologie positive, une voie vers le bonheur. La psychologie positive semble à la mode aujourd'hui. On en parle beaucoup, mais on ne sait pas précisément ce dont il s'agit toujours. Quelle différence avec d'autres courants de développement personnel qui lui paraissent proches? Qu'est-ce que cette nouvelle branche de la psychologie apporte de si révolutionnaire? Peut-on appliquer cela facilement dans notre vie? Pour nous en parler, notre conférencière ce soir est une experte de la gestion de stress, aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie de l'entreprise. Elle est avec nous pour le congrès virtuel pour la 4e fois. J'ai le plaisir d'accueillir Florence Vastra. Bienvenue Florence.
Bonsoir Maria et bonsoir à tous les auditeurs. Eh bien, merci de m'accueillir cette année encore et de me donner cette opportunité de participer à tout ce partage sur l'EFT que tu instaures depuis 4 ans maintenant. Je suis très très heureuse d'être parmi vous ce soir.
Merci Florence. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler de la psychologie positive. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous dire plus précisément de quoi il s'agit?
Ah ben oui, avec plaisir, je suis là pour ça. Alors moi, j'ai découvert la psychologie positive avec Cécile Neuville, hein, qui m'a formée en tant qu'animatrice du bonheur. Je pense que c'est quelque chose dont beaucoup de gens ont entendu parler. Et puis j'ai suivi une formation en psychothérapie positive. La psychologie positive, c'est une branche assez récente de la psychologie en général. La psychologie classique s'intéresse au dysfonctionnement. Elle tente de réduire tous les troubles psychosomatiques des individus. La psychologie positive, elle, a une autre approche. C'est l'étude scientifique de tout ce qui va bien dans la vie des individus, des groupes ou des institutions. Alors, l'histoire de la psychologie positive a commencé par une anecdote dont on parle assez souvent, parce que c'est elle qui a vraiment tout déclenché. C'était dans un avion, une rencontre entre Martin Seligman et un chef d'entreprise qui était assis à côté de lui. Et il y a eu un dialogue entre les deux hommes. Et ils ont chacun parlé de ce qu'ils faisaient dans la vie. Et le chef d'entreprise expliquait que lui, ce qui l'intéressait, c'était tout ce qui faisait avancer son entreprise, toutes les idées que ses employés pouvaient avoir. Et Martin Seligman, lui, de son côté, a commencé à parler de la psychologie telle qu'on en avait l'habitude. Et le chef d'entreprise lui a dit, mais vous vous intéressez de temps en temps aussi à l'autre face de la médaille. Et lui a dit, c'est intéressant d'aborder le bien-être des individus en recherchant tout ce qui fait qu'il y en a certains qui sont optimistes, motivés, pleins d'énergie. Et du coup, cette conversation, ça a été l'occasion pour Martin Seligman d'une totale remise en cause de ce qu'il faisait dans le domaine de la psychologie. Et ça a déclenché les prémices de la psychologie positive, voilà, en 98. Donc la psychologie positive, ça s'intéresse à ce qui rend les gens heureux. Et son objectif, c'est de développer encore plus ce qui peut nous donner du bonheur. C'est notre capacité à aimer, à être aimé, à donner du sens à nos actions, à être responsable, en gros, de tout ce que nous pouvons changer dans notre vie. Voilà. Martin Seligman, il définit la psychologie positive comme devant permettre de se concentrer sur les forces plutôt que sur les faiblesses des individus et de développer les talents pour atteindre l'épanouissement.
Alors, voilà. Quand je t'entends parler de psychologie positive, Florence, il me vient des idées comme la méthode Coué ou certains slogans ou affirmations qui nous disent de positiver. En quoi est-ce différent, selon toi?
Alors effectivement, c'est des choses qu'on entend un peu tous les jours et on a vite fait de faire l'amalgame. Alors Émile Coué avait compris qu'une idée qu'on ressasse dans notre cerveau finit par avoir une influence profonde sur l'image qu'on a de soi. Et sa méthode de se répéter des phrases positives était très intuitive. Alors c'est aussi le cas de personnalités connues comme Louise Hay, hein. Tout ça, c'est des choses. Il vient aussi la phrase de Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour ma santé. Donc, la psychologie positive, en fait, ressemble à tout ça. C'est un ensemble de techniques, mais qui ont fait l'objet d'études précises. La psychologie positive s'appuie sur vraiment de véritables expérimentations, alors que toutes ces techniques dont on a parlé, c'était plutôt intuitif, hein. C'est la psychologie positive, c'est une science qui repose sur des travaux rigoureux, comme toute science. Et souvent, le grand problème, c'est que beaucoup de gens ont du mal à la prendre au sérieux parce que ce sont des principes simples, mais ce sont des principes efficaces et dont on a fait l'expérimentation.
Oui, mais j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas tous égaux devant le bonheur.
Ah ben non, non, ça tu as complètement raison, Maria. La psychologie positive s'intéresse aussi à cette inégalité. Est-ce que tu sais qu'on est en moyenne plus heureux à 60 ans qu'à 20 ou 30 ans?
Eh ben, je ne le sais pas encore parce que j'en suis pas encore là, mais j'avoue que c'est aussi ma tendance. Donc, je suis ravie de savoir que je suis un exemple scientifique.
Alors, tu vois que le fait d'avancer en âge, hein, ça devrait cesser de faire peur à tout le monde parce que voilà, on est plus heureux à 60 ans.
Génial.
Par exemple, la psychologie positive s'est aperçue aussi que le bonheur des jeunes mariés ou des gagnants au loto revenait à son niveau de départ au bout de 2 ans. Pareil, les gens qui font des études supérieures sont moins satisfaits de leur existence. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. L'argent rend plus heureux quand il est consacré aux expériences vécues plutôt qu'aux biens matériels. Donc en fait, avec la psychologie positive, on découvre que ni la réussite professionnelle, ni l'argent, ni l'amour ne peuvent nous apporter un bonheur durable. Et que si nous ne savons pas nous préserver d'un processus d'usure, eh bien, le bonheur n'est pas au rendez-vous autant qu'on pourrait le croire. Les scientifiques appellent ça l'habituation hédonique. Alors il y a eu des enquêtes dans ce domaine qui ont montré que, par exemple, on le sait, hein, d'ailleurs, on en parle assez souvent, les gagnants au loto ou des personnes qui ont obtenu une promotion dans leur travail ou même des gens qui viennent de se marier avaient un niveau de bonheur qui avait augmenté au moment de l'événement, mais que ce niveau de bonheur est revenu à son état antérieur à peine 2 ans plus tard et pour certains moins d'un an.
Ah ben, ce n'est pas vraiment ce qu'on imagine alors qui rend heureux. Et qu'est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on a malgré tout une influence sur les choses pour être plus heureux, pour avoir plus de bonheur?
Alors, heureusement, c'est ça qui est prodigieux. Il y a eu une étude faite par une dame dont j'ai toujours beaucoup de mal à dire le nom, Sonia Youborminsky, voilà, qui a découvert qu'en fait, notre capacité à être heureuse se divisait en 3 parties. D'abord, on a une prédisposition génétique. C'est notre capital de départ. Alors à ce niveau, on n'est pas tous égaux. Certains ont un capital plus important que d'autres. Cette prédisposition compte pour 50% de notre capacité au bonheur. La deuxième prédisposition, la deuxième partie, c'est les facteurs extérieurs. Ce sont les événements, c'est notre environnement. Et là, ça compte pour 10% de notre capacité au bonheur.
Seulement 10%? J'aurais pensé que c'était moitié-moitié.
Et non, tu vois, seulement 10%. Moi, j'ai été comme toi, hein, surprise par ce chiffre. Et c'est là qu'on voit que l'expérimentation, c'est fort différent de l'intuition. Hein. D'ailleurs, pour corroborer ces 10%, on connaît tous des personnes qui ont vécu des choses parfois terribles, des drames dans leur vie et qui ont une joie de vivre importante.
Oui. Bien sûr. Mais alors, justement, il manque une grosse partie, là.
Il manque une partie pour 40%. Et cette dernière partie, elle s'appuie sur le regard que nous portons sur les situations, sur nos réactions et nos comportements.
Mm-hmm.
Voilà. C'est plus notre façon d'envisager les événements que le contenu de ceux-ci qui détermine notre bonheur. Hein. C'est Yves Alexandre Talman qui nous dit ça. Et là, Maria, ben moi, je suis enthousiaste. C'est la bonne nouvelle. On a un vrai pouvoir sur 40%. C'est quand même énorme. Hein. Alors, si on peut pas agir sur notre héritage génétique, si on a peu de pouvoir sur les facteurs extérieurs, eh ben, il nous reste quand même une marge de manœuvre importante sur laquelle on peut influer pour notre épanouissement. À mon avis, là, c'est là que le FP rentre en ligne de compte. C'est un superbe moyen pour agir sur nos pensées, sur nos émotions, sur notre regard, sur la vie.
Oui, ça me fait penser à une image avec des phrases qui circulent sur Internet depuis quelques années. On voit un gros singe qui grimace. Et le texte, c'est « On n'est pas responsable de la tête qu'on a, mais on est responsable de la gueule qu'on fait ».
C'est exactement ça. C'est absolument ça. Et c'est vrai en plus que quand on change volontairement de tête, bon, je pense à l'idée de faire un sourire, eh bien ça influe, on a découvert aussi avec la psychologie positive que ça influait sur notre état intérieur et sur notre état de bonheur.
Exactement. Oui, ça marche dans les deux sens, oui. Ouais. Alors, est-ce que tu as un exemple d'expérimentation à nous donner ?
Alors, oui, il y en a une qui est très connue. Je pense à une étude qui a été réalisée dans un couvent américain. Il y a les lettres de 180 religieuses qui ont été analysées et deux juges indépendants qui connaissaient rien aux hypothèses de l'étude, hein, on devait les classer selon les mots de chaque texte, entre émotions positives, négatives ou neutres. Donc, ils ont réparti les religieuses en deux groupes, selon qu'elles s'exprimaient beaucoup ou peu avec des émotions positives. Et puis, les chercheurs ont simplement observé combien parmi ces nonnes avaient atteint les âges de 75, 80, 95 ans. Alors, les conditions de vie des religieuses étaient donc parfaitement identiques. Elles se levaient à la même heure, elles mangeaient la même chose, elles participaient aux mêmes activités collectives. Et donc, ils se sont aperçus que l'espérance de vie de ces deux groupes était totalement différente. Parmi les religieuses qui avaient atteint l'âge de 95 ans, on retrouvait deux fois plus de sœurs issues du groupe des novices heureuses. Et en termes d'espérance de vie, on a calculé que les sœurs qui exprimaient beaucoup d'émotions positives à 20 ans vivaient en moyenne 7 ans de plus que les autres.
Ah, donc pour vivre vieux, vivons heureux.
Eh oui.
Ou alors, allons au couvent.
Éventuellement.
Mais ça, c'est pas la conclusion scientifique.
Non, non, c'est pas la conclusion. Ça, c'est que de l'intuition. Mais on peut se poser la question.
Ouais. Mais alors, excuse-moi, Florence, tu ne trouves pas que ça fait un peu le monde des bisounours, ça? Il suffit d'écrire des lettres pour dire « je suis heureuse dans mon couvent », utiliser des mots positifs et voilà qu'on est parti pour vivre heureux longtemps.
Oui, c'est ce qu'on peut penser, c'est parfois le reproche qui est fait à la psychologie positive, mais en fait, la psychologie positive ne nous dit pas de nier nos émotions. Par contre, ce qu'on découvre, c'est que les émotions négatives nous font voir le monde différemment que quand on a des émotions positives. Par exemple, imagine il pleut, hein. On peut se laisser aller à dire « c'est une journée pourrie ». Dans ce cas-là, on va pas être de bonne humeur, ni envers soi, ni envers les autres. Par contre, si on se dit « bon, je vais en profiter pour me sentir bien à l'abri, dans ma maison, m'occuper de moi », ça va être l'occasion, ben, ça va me mettre de bonne humeur, et ça va me mettre de bonne humeur, et du coup, ben, ça va avoir une répercussion aussi sur mon entourage. Mais bon, c'est Thomas d'Ansembourg, un psychothérapeute, hein, auteur de « Être heureux, ce ne sera pas nécessairement confortable hein, », qui nous dit que, effectivement, se mettre en expansion, cultiver ses talents, comme nous y invite l'approche de la psychologie positive, c'est bien, mais ce n'est ni suffisant ni magique. Hein. Il nous engage à aller décoincer aussi ce qui fait mal et nous occuper de nos émotions, telles que la colère, la peur, avant qu'elles s'occupent de nous. Alors, en fait, c'est bien l'objectif de cette conférence, hein, savoir donner leur place à chacune de ces deux techniques, la psychologie positive et l'EFT, pour avancer vers notre bonheur. Aujourd'hui, si tu veux, Maria, je te propose de lister un peu les grandes tendances de la psychologie positive et puis de voir ensemble en quoi l'EFT est un complément, à mon sens, indispensable.
Oui, super, j'ai très envie d'en savoir plus et je suis sûre que nos auditeurs aussi.
Bon, alors je vais commencer en m'appuyant sur une des bases de la psychologie positive. Hein, on prend conscience de ses talents et on les utilise. Donc Christopher Peterson, un autre acteur de la psychologie positive, a établi en 2004 une liste des 24 forces de caractère qui contribuent au bonheur. Et il les a réparties en 6 vertus. Donc il y a la sagesse, le courage, l'humanité, la justice, la modération, la transcendance. Voilà.
Mm-hmm. Mais c'est pas un exercice facile de trouver ces qualités. Et parfois, on n'est peut-être pas tout à fait objectif par rapport à soi-même.
Ben oui, c'est bien ça, Maria. C'est justement pour ça que je te propose d'aller faire, moi je l'ai fait et c'est passionnant, un test en ligne. L'adresse c'est www.viam.org.
Ok, on le mettra dans le chat tout à l'heure.
Ouais. Alors l'accueil se fait en anglais, mais il faut pas s'arrêter à ça. Bon, moi qui suis pas une fanade de l'anglais, très vite on passe en français pour faire le test et on s'inscrit et donc on peut même revenir et constater que nos forces de caractère ont évolué. C'est vraiment passionnant. Et pour moi, ça a quand même changé. Il y avait des choses que je savais, mais ça a quand même changé la vision que j'ai de moi-même. Et j'ai été assez surprise. C'est vrai que quand on voit aligner toutes ces forces de caractère, on se dit « Wow, ce qu'on fait, je suis pas si mal que ça ». C'est très, très, très intéressant à faire.
D'accord. Donc, c'est un test qui permet de relever, de nous mettre en face de nos forces de caractère, c'est ça ?
Voilà. Il y en a 24. Et donc, en fait, on les a toutes, ces forces de caractère, mais elles sont classifiées. Donc, les 5, 6, 10 premières sont vraiment celles qui sont les plus fortes en nous. Donc, ça peut à la fois nous permettre de nous appuyer dessus pour avancer dans la vie et en même temps de prendre conscience de celles qui sont un peu moins fortes et d'essayer de les développer. Donc, c'est vraiment intéressant pour mieux se connaître.
D'accord.
Et voilà.
D'accord. Alors, est-ce que tu as des exercices à nous proposer ?
Oui, j'en ai quelques-uns. Et voilà, je t'en propose un qui s'appelle, par exemple, le ratio de Losada. C'est du nom du psychologue Martial Losada. Il a étudié des équipes de travail dans des grandes sociétés et donc bon pour l'étude, pour la petite histoire, hein, chaque équipe devait se réunir dans une pièce et les chercheurs les observaient derrière une glace sans teint. Et donc ils ont observé le nombre de paroles positives par rapport au nombre de paroles négatives d'équipes de travail. Et ils sont aperçus que les équipes les plus performantes se caractérisaient par un rapport de 6 paroles positives contre une seule négative. Les équipes de performance moyenne affichaient un score de 2 positives pour une négative et les équipes très peu performantes ne dépassaient pas les 0,35, soit environ 3 fois plus de paroles négatives que de positives. Mmh. Et Losada a réussi à identifier un rapport sensiblement 2,9, 3 paroles positives pour une parole négative. En dessous de ce seuil, les équipes ont tendance à stagner, à être peu performantes. Et au-dessus, les membres s'épanouissent, la rentabilité est au rendez-vous. Et d'autres études ont confirmé ce ratio. 3-1 dans d'autres domaines, la sphère familiale, amicale. Par contre, et ça m'a amusé, le ratio en question change dans la vie des couples. Là, par contre, il faut 5 interactions positives pour une négative.
Waouh, 5 contre 1, ça me paraît énorme. Ça doit pas être facile à mettre en avant.
Non. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est de le savoir, parce qu'on peut y être attentive. On peut, par exemple, compter nos interactions positives dans la journée, ou dire, tiens, là, je suis allée du bon côté, du côté des plus ou du côté des moins. Hein. Mais
oui,
c'est vrai.
On va mettre en place un système pour compter les points.
Voilà.
Ça me plaît.
Ça te plaît. Ouais, non, mais c'est intéressant à faire parce que du coup on est un peu plus conscient de ce qu'on dit et de l'impact que ça a, hein. Parce que souvent on a la critique plus facile que le compliment, hein. Au début, c'est vrai qu'il faut se forcer. C'est vrai qu'il faut en prendre conscience. Et bah, si ça te tente, Maria, moi, je peux te proposer un peu de EFT pour développer cette envie de dire des phrases positives.
Oui, oui. Allons-y. De toute façon, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de seuil critique dans l'autre sens. On peut pas tomber dans l'excès de positivité.
Non, alors ça peut être une étude à faire, mais je crois que plus on est positif, plus il y a de bonheur. Donc, pas de problème, on y va.
D'accord. Donc, même s'il vous semble que vous êtes déjà un ratio acceptable, n'hésitez pas à tapoter avec nous. Vous risquez pas d'avoir des effets secondaires. On peut toujours aller plus loin.
Tout à fait. On y va?
Oui, allons-y.
Allez, sur le poids karaté. Même si je trouve compliqué de donner des encouragements et des félicitations.
Même si je trouve compliqué de donner des encouragements et des félicitations.
Je choisis de m'ouvrir à ce nouvel aspect du bonheur.
Je choisis de m'ouvrir à ce nouvel aspect du bonheur.
Dessus de la tête. C'est compliqué de parler positif tout le temps.
Oh, c'est compliqué de parler positif tout le temps.
Début du sourcil, je ne suis pas habituée à ça.
Je ne suis pas habituée à cela.
Au coin des yeux, j'ai l'impression qu'on ne va plus faire d'efforts.
J'ai l'impression qu'on ne va plus faire d'efforts.
Sous les yeux. Pourtant, il faut bien le dire quand ça ne va pas.
Pourtant, il faut bien le dire quand ça ne va pas.
Sous le nez, sinon c'est la porte ouverte au laisser-aller.
Sinon c'est la porte ouverte au laisser-aller.
Creux du menton. En tous les cas, c'est comme ça que j'ai été élevée.
En tous les cas, c'est comme ça que j'ai été élevée.
Clavicule. J'ai l'impression d'être dans le monde des bisounours.
J'ai l'impression d'être dans le monde des bisounours.
Sous les bras. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil.
Sous les seins. C'est vrai que ça fait du bien, les encouragements.
C'est vrai que ça fait du bien, les encouragements.
Et au-dessus de la tête. Moi, j'aime bien quand on m'en fait.
Moi, j'aime bien quand on m'en fait.
Début des sourcils. Et au fait, quand on m'encourage.
Et au fait, quand on m'encourage.
Point des yeux. J'ai envie d'en faire plus.
J'ai envie d'en faire plus.
Sous les yeux. Et si je venais de découvrir une croyance?
Ah, si je venais de découvrir une croyance.
Mais, et si critiquer ne faisait pas vraiment de bien?
Et si critiquer ne fait pas vraiment de bien?
Creux du menton. J'ai envie d'essayer pour voir.
J'ai bien envie d'essayer pour voir.
Clavicule. Mais quoi dire?
Mais quoi dire? On m'a jamais appris.
Non. Sous les bras, je manque de vocabulaire positif. Au secours.
Je manque de vocabulaire positif. Au secours.
Sous les seins, je peux commencer tout de suite en me parlant.
Je peux commencer tout de suite en me parlant.
Alors ici, je te propose de répéter la phrase en finissant par ton prénom, comme si tu te parlais, sur le dessus de la tête. Bravo! C'est génial, tu commences une nouvelle façon de vivre. Félicitations.
Bravo, c'est génial, tu commences une nouvelle façon de vivre. Félicitations.
Félicitations, Maria.
Félicitations, Florence.
Ah, qu'en penses?
Eh bien oui, c'est vrai que ça donne envie d'essayer.
Bon.
Mais justement, est-ce que tu peux partager quelques idées de phrases dans différents contextes? Parce que c'est vrai que notre éducation nous a pas toujours habitués à ça.
C'est vrai. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir s'appuyer sur des choses comme ça, que ce soit facile. Donc, bah oui, j'en ai quelques-unes là en stock. Je te recommande à nos auditeurs aussi de noter, si vous voulez, hein, pour pouvoir les récupérer facilement. Alors, par exemple... qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que tu pourrais dire à tes enfants, Maria? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient?
Bravo. Moi, j'essaye de leur dire souvent que je suis fière d'eux.
Oui, 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 ça c'est super. C'est super. J'ai une phrase qui me vient, continue, ça va de mieux en mieux.
Oui.
Il y en a une autre que je trouve bien aussi, c'est pas grave. Tu fais des progrès à chaque fois.
Oui.
Celle-là, elle est bien aussi. Où tu te débrouilles vraiment très bien.
Mm-hmm.
Voilà.
Voilà, notez ces quelques exemples et n'hésitez pas à rajouter les autres qui vous viennent en notant une phrase.
Oui. Alors, à des collègues de travail.
Oui.
Je voudrais dire merci de m'avoir rendu service.
Je suis fière de faire partie de notre équipe.
Ouais. Heureusement que tu es là. Ça, c'est une phrase que je trouve très belle.
Oui.
À un conjoint. Je t'aime tel que tu es.
Oui. Je t'accepte, même si tu as des idées farfelues parfois.
Voilà.
Et okay, je
te félicite.
Je te félicite ou pas?
Je te félicite. Quel plaisir d'être avec toi.
Oui. J'avais vécu dans le stage pratique de Transurfing. Nous avions fait un exercice très intéressant où on faisait le tour de tous les membres du groupe. Et pour chacun, on disait deux choses qu'on trouvait vraiment exceptionnelles. Ce que j'apprécie en toi, et on trouvait quelque chose, parfois avec des personnes parfaitement inconnues. C'était intéressant. Et après avoir cité au moins deux choses, on finissait la phrase en disant « Et en cela, tu es un être exceptionnel. »
Oui, absolument.
Et ça, ouais. Même avec son conjoint, on peut le faire régulièrement. Ça fait du bien.
Ça élève ces fameuses vibrations.
Ouais.
Ouais. Ouais, c'est très, très important. Ouais. Et puis, on est tous des êtres uniques. Et c'est bien de s'en souvenir pour soi et puis de s'en souvenir pour les autres.
Oui.
Alors,
ça donne des idées, oui, super.
Ouais. Y a des études aussi qui ont prouvé que tous les gestes altruistes qu'on peut faire, hein, même, on en parlait tout à l'heure, le simple fait de sourire ou encore de tenir la porte à quelqu'un, ça diminue les hormones de stress et ça permet de sécréter les hormones du bonheur. Alors, la psychologie positive nous dit que c'est en compagnie des autres que nous sommes le plus heureux. C'est vrai alors pour nos amis, pour notre famille, mais c'est vrai aussi pour toutes les personnes qu'on peut croiser. Alors être utile aux autres, indulgent avec eux, c'est une méthode pour se sentir soi-même plus heureux. Voilà. Donc là, on aborde la générosité, la bienveillance qui stimule des zones de satisfaction dans notre cerveau. Donc quand on est l'auteur de ces gestes-là, quand on est les bénéficiaires, même quand on en est les témoins.
Oui, et le fait d'en être témoin, ça fait penser à toutes ces vidéos qui circulent sur Internet avec des actes aléatoires de générosité, effectivement, comme des flash mobs ou les free hugs, les câlins gratuits dans la rue. Rien qu'à regarder une vidéo de ces gens qui font du bien autour d'eux, c'est vrai qu'on a le sourire.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que parfois, commencer une journée en regardant une vidéo comme ça, ça donne la pêche pour la journée.
Oui, tout à fait.
Alors, oui, en matière de tout ça, l'autre jour, j'étais dans un magasin. Il y avait beaucoup de monde et je me souviens que j'étais étonnée. La caissière gardait le sourire, elle répondait aimablement aux gens. Alors, je me disais, waouh, quelle est... Hein, à un moment, elle a même répondu au téléphone. Elle continuait d'encaisser en même temps. Enfin, j'étais vraiment bluffée. Hein. Et tout en la regardant faire, je me disais, je vais lui dire. Alors, ça m'a demandé un effort. C'est vrai que c'est pas toujours naturel, hein, mais je lui ai exprimé ce que je ressentais. Et vraiment, j'ai eu une vraie récompense, rien qu'avec son regard. Alors, ce qui m'amusait, c'est qu'au début, quand je lui ai dit félicitations, elle s'est un peu défendue en disant, j'étais au téléphone et tout. Elle a cru que je lui faisais des reproches. Puis après, elle a compris que j'étais sincère et je l'ai vraiment vu se transformer. Hein. Je te parle pas de son sourire, c'était quelque chose. Alors à vous tous qui m'écoutez, je vous recommande d'essayer. C'est un exercice qui est hyper gratifiant, je pense, et pour l'autre et pour soi-même.
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est souvent récompensé par un beau sourire et une jolie rencontre au milieu du quotidien. Je crois que tous nos auditeurs ont déjà connu ce genre de situation.
Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui fait la différence, ce que j'ai ressenti, moi, c'est que désormais, on a cette conscience. Maintenant, on sait qu'il y a un impact et c'est d'autant plus fort, quoi. Pour continuer sur l'intention positive, moi, ça me fait penser à de nombreuses branches du développement personnel. Hein. Je pense par exemple au travail du docteur Emoto sur les cristaux d'eau. Hein. Tu vois, des petites phrases positives, c'est des petites choses, hein, mais la psychologie positive valide ce qu'on savait déjà, ce que Emoto, lui, avait vu aussi. Hein. Et ce qui m'amuse, c'est que j'imagine, on a 70 à 80% d'eau dans nos cellules. Hein. Alors parfois, ben, ça m'amuse d'imaginer tous les petits cristaux d'eau qui se mettent à s'épanouir quand quelqu'un me dit quelque chose de gentil. Et puis même la même chose quand moi je dis quelque chose de gentil. Hein. C'est vraiment amusant comme tout. Voilà.
Oui, et ces millions de cellules, effectivement, pourraient devenir des aimants aussi. Si ce sont des cellules remplies de gentillesse, elles vont attirer plus de gentillesse, a priori. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, juste un petit mot sur les travaux du docteur Emoto, qui est japonais, me semble-t-il. Il a fait des expériences avec l'eau où juste la vibration d'un mot, soit prononcé, soit écrit, a vraiment transformé la qualité de l'eau. Et effectivement, comme nous, les êtres humains, nous sommes constitués d'eau en très grande partie, ça nous concerne.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu as d'autres exercices à nous conseiller, Florence?
Alors, j'ai d'autres choses à partager encore avec vous sur l'enseignement. Ah oui, ça c'est quelque chose de très amusant aussi, mais qui a été très très puissant. C'est l'enseignement de la fille de Martin Seligman. Donc, ils étaient tous les deux en train de travailler dans leur jardin et sa petite fille qui avait 5 ans, Nikki, jetait les herbes en l'air, ils étaient en train d'arracher des mauvaises herbes, alors elle s'amusait, elle chantait, elle dansait, elle jetait l'herbe et tout. Et Martin Seligman a fini par être un petit peu agacé et il a grondé sa pitchounette en élevant un peu la voix. Alors elle est partie en pleurant. Et puis elle est revenue quelques minutes plus tard et elle lui a dit « Papa, je voudrais te parler ». Alors, il a écouté, elle lui a dit « Tu sais, tu te souviens, je pleurnichais tout le temps quand j'avais 4 ans et j'ai 5 ans. Et à 5 ans, j'ai eu mes 5 ans, j'ai décidé d'arrêter. » Et elle lui dit « C'est quelque chose de très difficile que j'ai fait. Alors si je peux arrêter de pleurnicher comme ça tout le temps, tu peux sûrement arrêter de râler tout le temps. » Et pour Martin Seligman, quelle leçon! Et il a compris à ce moment-là qu'effectivement, on pouvait passer à côté de sa vie si on n'entraînait pas son esprit à percevoir ce qu'il y avait de joyeux et de gratifiant dans la vie. Alors, on a tous en nous une aptitude naturelle au bonheur et il nous appartient de décider ou non si on va lui donner une chance, si on va la faire grandir. Hein. C'est pas nécessaire d'aller chercher très loin hein, pour trouver le bonheur. Chaque jour, la vie nous offre des petits cadeaux hein, dont on n'a pas toujours conscience. Ça peut être un compliment d'un ami, une pause café au soleil. Moi, j'étais passionnée par le livre dont on a beaucoup parlé, « Trois kiffs par jour » de Florence Servan-Schreiber, hein, qui nous propose un exercice qui est vraiment à la portée de tout le monde, de prendre conscience chaque jour de 3 bons moments ou de 3 sensations agréables qui ont marqué notre journée.
Oui.
Et elle nous suggère, ça c'est quelque chose qu'on sait faire, mais alors elle nous suggère soit de les noter chaque soir dans un petit carnet, donc c'est aussi quelque chose dont on a déjà entendu parler, mais qui est très puissant, soit encore de les partager en famille, par exemple à l'heure du dîner. Alors, ça permet, ces petits exercices, ça permet de cultiver donc des choses importantes en psychologie positive, c'est l'optimisme, d'exprimer la gratitude également. Et la psychologie positive a constaté qu'il y avait des effets positifs en seulement 6 semaines. Alors, il y a eu une étude de faite en 2003 là-dessus. Et 6 semaines, là, moi aussi, j'étais bluffée par cette découverte, c'est effectivement le temps qu'il faut à un antidépresseur pour être actif. Donc, tu vois, le choix entre les deux, à mon sens, il est vite fait. Étant donné que c'est aussi long, 6 semaines, ça paraît quand même un petit peu long, mais malgré tout, au bout de 6 semaines, le bonheur est au rendez-vous et voilà, on n'a pas besoin de prendre des choses extérieures.
Oui, effectivement. Commençons par partager le bonheur au repas avec la famille, par exemple. Je vois comment ça pourrait transformer un peu l'ambiance.
ça pourrait transformer l'ambiance, puis qui sait, ça pourrait peut-être aussi transformer notre façon d'absorber la nourriture. Ça vaut le coup d'essayer de faire un petit test.
Mais oui.
Si les auditeurs veulent le faire.
Voilà. Bien sûr. Alors, d'autres pistes, Laurence?
Oui, c'est intéressant de repérer aussi. On parlait de la conscience tout à l'heure, hein, d'avoir conscience de ce qui nous fait du bien. Alors, dans la vie quotidienne, on a souvent plein d'obligations, d'horaires à respecter. On est embarqué dans un rythme effréné. On revient un peu au stress, qui est mon domaine de prédilection, hein, et on s'accorde peu de moments de répit. Donc, c'est important d'identifier des activités qui nous procurent du bien-être. Et c'est ce qu'on appelle les accélérateurs du bonheur. C'est des activités diverses, hein, selon les goûts de chacun. Hein. Ça peut être de la cuisine, du sport, du jardinage, des promenades. Hein. Mais le but, le point commun, c'est d'apporter du plaisir et du sens à notre vie. Je pense à la théorie des hamburgers de Tal Ben-Shahar. Hein. C'est une autre figure de la psychologie positive, hein, qui nous raconte quelque chose d'assez ludique. Il y a une vidéo sur YouTube, hein, c'est sa théorie des 4 hamburgers. Alors, le premier hamburger, il est très bon, il va me donner du plaisir dans le moment présent, mais par contre, il va être dur à digérer. Un autre hamburger pourrait être plus léger, mais sur le moment, bon, comme il est plus léger, il est moins bon, même s'il me donne de la satisfaction après, voilà. Le troisième, il est mauvais, il est dur à digérer, donc lui, c'est le pire. Et le dernier, c'est un hamburger délicieux, léger, et qui, en même temps, est très bon pour ma santé. Et donc, c'est l'analogie qu'il fait avec le bonheur. Hein.
Mmh.
Voilà. Donc, les activités qui nous apportent du bonheur, c'est celles qui souvent nous font qu'on voit pas le temps passer. Et c'est ce que les psychologues appellent l'état de flou. C'est un peu le peintre qui peint son tableau, ou la séance de sport, voilà. Et donc, en matière d'exercice, je te propose, Maria, par exemple, de prendre un moment, puis de faire la liste de tes activités favorites. Celles qui ont pour objectif à la fois de te rendre heureuse et de donner un sens à ta vie.
Mm-hmm.
Par exemple, moi, celle qui me vient naturellement, c'est les promenades avec mon chien. C'est des moments magiques, de complicité avec lui. C'est des moments qui me donnent ta créativité aussi, les idées me viennent. Et puis, en même temps, je suis dans la nature et je me sens en phase et voilà. Pour toi, par exemple, il me vient une idée, le chant. Je sais que tu fais partie d'une chorale et j'imagine facilement que tu es dans cet état de flow quand tu chantes. Qu'est-ce que ça t'apporte,
le chant? Oui, c'est exactement ça. C'est dans une énergie très particulière et j'ai souvent remarqué ça. Mes répétitions de chorale se passent, le hasard fait que ça se passe le lundi soir. Et les lundis soirs, je peux arriver à la répète avec tous les soucis du monde. Et je lâche tout, je me concentre, je me laisse porter par la musique, par le groupe. Je me concentre à la fois sur la partition, sur le chef de chœur. Et deux heures plus tard, effectivement, je suis nettoyée de fond en comble. Il n'y a plus, les idées sont en place. Et ouais, c'est vrai que c'est une énergie très particulière.
Le temps passe à toute vitesse et voilà.
Alors,
il y a une autre approche aussi de la psychologie positive. Hein. On pourrait dire, je vais prendre toutes les choses qui me rendent heureux et puis je vais les mettre les unes à la suite des autres. Hein. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Par exemple, dis-moi quelle est ta musique préférée, celle qui te fait vibrer lorsque tu l'écoutes. Dis-moi laquelle et puis donne-lui une note.
Alors, puisque tu viens de me parler de la chorale, j'ai des œuvres classiques qui me viennent, comme le fameux Alléluia de Handel. Ça, si je me le mets, ça me fait un 10 sur 10.
D'accord, 10 sur 10. Est-ce que tu as un autre morceau que tu aimes plus que tout, que tu mettrais juste après celui-là?
Oui, c'est pas du tout le même registre, mais en ce moment, pour me remettre en forme, j'adore écouter le fameux Happy, justement.
Oui, la chanson
du bonheur et toutes les vidéos qu'il voit avec, c'est génial. Là aussi,
c'est pas
pareil, mais c'est aussi un 10 sur 10.
10 sur 10, d'accord. Alors, juste pour la petite histoire, je l'ai mis sur mon comme sonnerie pour mon portable, tu vois. Et ça, c'est extra. Dès que quelqu'un m'appelle, je suis en joie.
Oui, ben moi, je l'ai en réveil. Bref.
Ben voilà. Bon, donc alors, pour en revenir à ces deux morceaux, imagine que tu les mettes en même temps. On pourrait dire que ça fait 10 plus 10, que ça fait 20.
Non, je ne suis pas sûre.
Eh ben non.
Ah non.
Eh non. Non, ça va faire du puits. Voilà.
Oui, effectivement.
Alors, donc non, ça ne s'additionne pas comme ça. Hein. L'idée, c'est de nous efforcer parfois d'en faire moins, pas toujours plus. Hein. C'est ça, sans renoncer à réussir à ce qu'on entreprend, au contraire. Hein. Tal Ben-Shahar nous dit que nous pouvons être plus heureux et plus performants en commençant, ben tiens, on parlait de lui, par nous décider à couper notre téléphone pendant 2 heures, par exemple, pour nous ménager des moments de concentration, des plages de repos. Mmh. Alors, pour ma part, je recommande effectivement des plages de méditation ou même de cohérence cardiaque. Hein. Et puis, de l'EFT quotidienne pour gérer les émotions négatives. Hein. C'est vrai que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est inévitable de ressentir de la tristesse, de la colère ou même de la culpabilité. Prendre le temps de s'écouter, prendre du temps pour soi.
Oui, alors justement, on a beaucoup parlé de positif dans cette conférence, mais avec l'EFT, on fait le tapping sur du négatif. Tu viens d'en amener là, la tristesse, la colère, la culpabilité. Et ce fait de dire des phrases négatives dérange certaines personnes. Parce que justement, est-ce que je ne vais pas renforcer le négatif? Est-ce qu'il faut mettre la loupe sur ses problèmes? Qu'est-ce que tu en penses, Florence? Est-ce que tu peux nous parler de ça?
Oui, tout à fait. Alors, donc la psychologie positive, elle ne nous dit pas d'éviter nos émotions. Hein. Elle nous donne juste les moyens, enfin, elle nous donne, pas juste, elle nous donne surtout les moyens d'aller mieux. L'EFT, donc, a sa place dans ce processus. Hein. Aller mieux, c'est prendre conscience de nos émotions, les accueillir, observer ses effets. Ça peut se traduire par des palpitations, des larmes, des images, des souvenirs. Hein. Et si on ne le fait pas, moi j'ai toujours cette image de la cocotte minute, hein, le couvercle tourne de plus en plus vite, ça fait un bruit insupportable, mais comme la cocotte est fermée, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors l'EFT, c'est ça qui est fabuleux, ça nous permet en fait d'ouvrir le couvercle pour regarder simplement ce qu'il y a dedans, sans jugement, d'y rajouter l'amour pour soi, tu sais, avec la petite phrase là, même si je m'aime tel que je suis, j'aime bien cette petite phrase-là. Mmh. Et puis, grâce au tapping, enfin, de dissoudre ces énergies qui sont bloquées dans notre système énergétique. Ça aussi, ça c'est primordial, c'est vraiment le rôle de l'EFT.
Oui, tout à fait. Et du coup, on peut remplir cette marmite avec une soupe qui s'approche plus du bonheur. Alors, pour résumer, Florence, qu'est-ce que tu peux nous dire?
Alors, ben, pour résumer sur la psychologie positive, je pourrais dire, voilà, Martin Seligman nous dit qu'on a 3 niveaux de bonheur dans la vie. Hein. La bonne vie, qui est basée sur le plaisir, hein, c'est vraiment le numéro 1, c'est l'objectif de vivre, c'est de vivre des plaisirs, d'en amplifier les effets. Ça, c'est un type de bonheur qui est instantané, mais qui, on l'a vu tout à l'heure, décroît avec l'usage. C'est juste le petit bonheur au moment présent, c'est important, mais ça n'est pas suffisant. Il faut également que la vie soit engagée. Lui, il parle de good life, c'est-à-dire basée sur l'engagement. On connaît ses forces et on va se mettre dans cet état de bien-être optimal qui est le flow dont on parlait tout à l'heure, hein, où le temps passe plus vite, dans une activité qui nous captive, qui nous apporte de la satisfaction. Hein. Et puis le troisième, c'est la vie significative, qui est basée sur le don de soi. L'individu connaît ses forces et les met au service d'une cause plus grande que lui-même. Ça donne un sentiment d'accomplissement qui est profond et durable. Mmh. Hein, Martin Seligman nous dit que la simple poursuite du plaisir, voilà, faut pas résumer la psychologie à la poursuite du plaisir, c'est beaucoup plus large que ça. Hein. La poursuite du plaisir, ça conduit pas à un bien-être durable. Il faut l'engagement dans une relation amoureuse, famille, travail, communauté, hein, peu importe, et donner du sens à son action, se servir de ce qui est le mieux en nous pour contribuer au bien-être des autres. Voilà, c'est donc toute une globalité qui fait que le bonheur va être au rendez-vous et va augmenter.
Oui. Alors, dans le pack du congrès virtuel EFT 2014, tu nous proposes un bonus audio, puisqu'on parle de contribution, Florence.
Oui, parfait.
Et qu'est-ce que nos auditeurs vont trouver dans ce bonus?
Alors, dans ce bonus, donc, je propose 4 protocoles EFT pour venir aider à surmonter les résistances qu'on peut avoir par rapport à des thèmes précis de la psychologie positive. Alors, en l'occurrence, là, il va s'agir de l'optimisme, de la gratitude, du pardon et de la générosité. Donc, des protocoles qui nous permettent de surmonter nos résistances.
D'accord, super. C'est un beau cadeau.
Merci. Mais si tu veux, en matière de cadeaux, est-ce que ça te dit qu'on termine sur un petit tapping EFT positif?
Oh ben oui, hein, allons-y.
Alors, de vibrer ensemble.
Oui, tout à fait. Tu nous guides?
Alors, allez, on y va. Là, on laisse de côté le point karaté, on va directement au-dessus de la tête. Dessus de la tête, donc je me sens pleine d'optimisme après toutes ces informations.
Je me sens pleine d'optimisme après toutes ces informations.
Début des sourcils. J'ai découvert qu'il y a des choses très simples pour changer sa vie.
J'ai découvert qu'il y a des choses très simples pour changer sa vie.
Coin des yeux. J'en ai d'ailleurs répertorié certaines que je vais mettre en pratique très très vite.
J'en ai d'ailleurs répertorié certaines que je vais mettre en pratique très vite. Tout de suite, j'ai envie de dire.
Sous les yeux. Et si j'ai encore un doute, je choisis de regarder les résultats de mes actions.
Et si j'ai encore un doute, je choisis de regarder les résultats de mes actions.
Sous le nez, je me félicite pour ma curiosité.
Je me félicite pour ma curiosité.
Qui me pousse à m'intéresser à toutes ces conférences.
Qui me pousse à m'intéresser à toutes ces conférences.
Creux du menton, je sais que j'agis directement sur ma vie à travers ces tappings et ces nouvelles infos.
Je sais que j'agis directement sur ma vie à travers ces tappings et toutes ces nouvelles infos.
Clavicule, je reprends mon pouvoir sur ma vie et j'aime cela.
Je reprends mon pouvoir sur ma vie et j'aime ça.
Sous les bras, je veux mettre du bonheur dans ma vie et je sais comment faire.
Je veux mettre du bonheur dans ma vie et maintenant je sais comment faire.
Sous les seins, je peux aussi en mettre dans la vie des autres.
Je peux aussi en mettre dans la vie des autres.
Dessus de la tête, je sens l'énergie qui circule en moi.
Je sens l'énergie qui circule en moi.
Dessus des yeux, et je sais de plus en plus que je me sens bien et que j'irradie sur les autres.
Et je sais de plus en plus que je me sens bien et que j'irradie sur les autres.
Coin des yeux, je décide de me concentrer sur l'amour.
Je décide de me concentrer sur l'amour.
Sous les yeux, amour pour moi.
Amour pour moi.
Sous le nez, amour pour les autres.
Amour pour les autres.
Creux du menton. Je deviens un aimant à amour.
Je deviens un aimant à amour.
Clavicule. Je deviens un aimant à bonheur.
Je deviens un aimant à bonheur.
Les bras, avec ma famille, avec mes amis, avec tous ceux que j'aime.
Avec ma famille, avec mes amis, avec tous ceux que j'aime.
Sous les seins, je deviens un agent du bonheur pour tous et pour moi-même.
Je deviens un agent du bonheur pour tous et pour moi-même.
Dessus de la tête, merci la vie de m'offrir ces belles expériences.
Merci à la vie de m'offrir ces belles expériences.
Voilà Maria.
Waouh, ça fait du bien.
Oui, oui, oui.
Mais merci Florence de nous offrir toutes ces belles expériences et ces pistes de la psychologie positive.
Ben merci à toi Maria de me permettre de partager tout ça parce que c'est vraiment ma passion.
Et je suis sûre qu'il y a plein d'agents de bonheur qui nous écoutent. Oui. Et qui ont des questions. On va aller y répondre tout de suite dans le chat.
Allez, on y va.
Merci Florence, à tout de suite.
le chat est ouvert. Posez vos questions à Florence au sujet de la psychologie positive et le bonheur. Et comme on vient de dire, le bonheur, c'est aussi de contribuer et de donner. Et c'est bien pour ça que le congrès virtuel EFT cette année est partenaire d'un projet humanitaire où vous pourriez vous exercer dans le don. Et il paraît aussi qu'il faut donner avant de recevoir. Interview en vidéo que nous a accordé Steve Wells quand il revenait de son expérience dans les Philippines. Il nous a donné l'info que là-bas, il y a pas mal de familles qui vivent avec 5 dollars, non pas par jour, mais par mois. Alors, imaginez, 5 dollars, c'est un mois de salaire, donc un don, ne serait-ce que de 5 ou 10 euros, fera vraiment la différence pour les personnes qui sont là-bas et qui ont perdu leur maison, leurs écoles, beaucoup de proches, leurs enfants, leurs parents, dans un terrible typhon qui est passé au mois de novembre. Vous verrez tout ça dans les vidéos, dans la page EFT humanitaire que vous trouverez sur la page d'accueil, sur la partie droite. Il y a des questions qui arrivent. Florence, je rouvre ta ligne.
Je suis en train de regarder les...
Ça défile.
Quand un élève a de mauvaises notes, nous demande Titi.
Oui. Comment peut-on peut rester dans le positif malgré des résultats médiocres?
Dans le positif. Alors, c'est vrai que c'est pas très très facile. On a tendance à vouloir plutôt pousser en disant faut travailler, etc. Faut réussir à trouver ce qui est bien. Arriver à valoriser ce qui est déjà bien fait et peut-être s'ouvrir à autre chose qu'aux mauvaises notes, peut-être mettre le focus sur ce que l'enfant est capable de bien faire, arriver à vraiment amener le positif dans la relation avec lui.
Oui.
Parce que c'est on est à un autre niveau là, mais c'est vrai que ce qu'on va penser, ce qu'on va aimer chez lui, on va lui manifester et ça va lui donner une autre motivation. Alors bon. C'est à tester hein, au quotidien, mais et puis encourager même une meilleure note, même si elle n'est pas encore très bonne, dire voilà, regarde, là, tu as eu c'est mieux que la dernière fois, bravo, tu es sur le bon chemin.
Oui, de voir déjà les petites améliorations, de ne pas attendre des miracles tout de suite, mais rester sur le positif.
Oui. Alors j'ai une autre question. Je vois une autre question. Là, peut-on pratiquer soi-même et créer son tapping selon sa propre intuition sur un problème particulier? Alors là,
oh, oui.
Oui, un grand oui, oui, oui. On est la personne qui savons le mieux ce qui est bon pour nous, au fond de nous. Et avec le FT, on se relie à une partie de nous qui est au-delà du mental. Donc, oui, bien sûr, faire son tapping et puis se faire confiance et alors des fois on ne sait pas quel mot employer mais voilà dès le moment où on est centré sur sa propre émotion sur son propre ressenti ouais tout à fait bien sûr. Alors il y a Angevine aussi qui nous demande comment agir sur la culpabilité. Alors ouais la culpabilité c'est une sacrée émotion hein. Je pense que c'est une de ces
toute une conférence consacrée à ça demain soir. Ouais. Mais voilà, donc déjà le point de vue, ton point de vue.
Déjà, bien sûr, comme toutes les autres émotions à accueillir, hein, parce que on la ressent, elle est là et on va pas l'enfouir, l'accueillir. Oui, je me sens coupable. Oui, je sens que c'est de ma faute. Mais en tapotant, on va pouvoir tout doucement s'ouvrir à la possibilité que qu'on n'est pas responsable de tout. Et je pense que voilà, c'est à force de tapoter sur cette émotion que tout doucement elle va se dissoudre. Et puis bien sûr, après on a d'autres outils comme les affirmations positives, des choses comme ça qu'on peut également tapoter. Hein. Mm-hmm. Donc je suis quelqu'un de bien. Mais voilà. D'abord accueillir l'émotion avant de passer à autre chose.
Oui. Alors, une autre question. Il arrive qu'on n'arrive pas à identifier les activateurs du bonheur. Comment faire dans ce cas?
Alors, les activateurs de bonheur, c'est les choses qui vont nous faire vibrer un petit peu, nous donner de la joie. Et peut-être essayer d'aller se reconnecter, et ça on peut le faire aussi avec l'EFT, avec l'enfant qui est en nous. Hein. Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite? Est-ce que j'aimais chanter? Est-ce que j'aimais faire du sport? Est-ce que j'aimais être avec un animal? Est-ce que j'aimais... Voilà. Et essayer de se reconnecter à ça. Et l'EFT, surtout si on n'y arrive pas consciemment, l'EFT peut nous y aider. On peut tapoter en disant, ben, moi, j'arrive pas à identifier mes activateurs de bonheur. C'est bien compliqué pour moi. Je suis loin de mon enfant intérieur. Voilà. Quelques pistes.
Oui.
Mais ça devrait... Si vous faites ça, moi, je suis convaincue que ça va revenir parce que... Après, les activateurs de bonheur, c'est des listes que vous pouvez trouver aussi ailleurs, puis aller voir celles qui vous font le plus plaisir. Ça peut être chanter comme toi, Maria. Ça peut être
mettre une bonne musique et danser, faire un tour dehors. Et moi, un conseil que je donne souvent à mes clients, c'est d'établir cette liste ou mettre des papiers dans une boîte de bonheur, quand ils vont bien. Ne pas attendre d'être dans le trou, parce que là, effectivement, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va nous sortir du trou. Et si on sait que je peux aller piocher dans ma boîte ou j'ai ma liste, ça peut aider.
Tout à fait.
C'est aussi ton expérience.
C'est vrai que quand on n'est pas bien, on a tendance à se sentir un peu sec en se disant « mais qu'est-ce qui va pouvoir me faire plaisir ?»
Oui.
Or, quand on a préparé le terrain avant, c'est un peu plus facile. Même si ça paraît... Si on a préparé le terrain avant, on a choisi des activités qui, bien évidemment, nous plaisaient. Donc, au moment où on n'est pas bien, on peut en choisir une et dire bah, « je vais quand même la faire juste pour voir ». Et souvent, ça réactive des choses positives.
Oui, une façon de faire, c'est déjà de se forcer pour commencer à sourire ou à rire. Et après, il y a le vrai sourire qui peut venir en fait.
Ouais.
Alors, il y a quelques questions qui tournent autour de comment faire des compliments à quelqu'un qui est en perpétuelle spirale négative. Comment
Oui, moi j'avais lu une phrase magnifique qui dit que les personnes les plus difficiles à aimer sont celles qui en ont le plus besoin.
Oui, exactement. Donc, comment les faire recevoir notre amour? Comment atteindre ces personnes négatives qu'on est parfois obligé de côtoyer?
Alors, moi, je vais rajouter ma petite touche personnelle. Je crois que le pouvoir de l'intention, c'est important aussi. C'est-à-dire à la fois d'aimer la personne et d'avoir l'intention simplement et de lui laisser... comment dire, une forme, l'accueillir dans le fait qu'elle est négative, l'aimer avec ce négatif. Parce que dans la mesure où on va s'accrocher absolument à vouloir la rendre positive, on a toutes les chances de créer une réaction inverse.
Oui, tout à fait.
Alors, moi, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est de tapoter sur soi. Oh là là, qu'est-ce qu'il est ou qu'est-ce qu'elle est négative? Oh là là, qu'est-ce que ça me rend malheureux? Mais je voudrais pouvoir l'aider, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et si je lâchais prise? Et si je lui donnais tout mon amour? Je crois que pour moi, l'amour est guérison de beaucoup de choses et voilà. On va pas guérir ou aider quelqu'un contre son gré. Ce qu'on peut, nous, c'est donner notre intention, notre amour et notre acceptation de l'autre.
C'est ça.
Et quand on fait ça, il se passe des choses fabuleuses en face. Alors, faut pas le faire pour ça, mais il faut le faire. Nous, l'objectif, c'est... Alors, on n'est plus tout à fait là dans la psychologie positive, mais c'est se sentir bien d'abord. Quand nous, on est bien, quoi qu'on y retourne quand même, quand nous, on est bien, automatiquement, il va se passer des choses à l'extérieur. On va déclencher d'autres choses. Donc, comment je peux réussir à être bien en ayant quelqu'un en face de moi qui n'est pas bien, qui est dans une spirale négative? C'est tout un travail et c'est un bel enjeu, mais c'est celui-là qu'il faut faire. Il ne faut pas se tromper de cible en voulant aider l'autre, même surtout s'il ne le veut pas.
Oui, comment moi je peux me sentir bien, même si j'ai une spirale négative en face de moi? effectivement. Ça, c'est la première question.
Alors, j'ai une autre question. Comment être positif avec soi si on a manqué d'expression de positif de ses parents? Ben, bien sûr. Oui. C'est vraiment, j'ai envie de dire, un reformatage. On a été formaté à pas recevoir de positif et on va apprendre à en recevoir. C'est tout un apprentissage et il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et je recommande de s'aider de choses merveilleuses comme les livres de Louise Hay, où on trouvera plein de formules positives. Il y a un exercice qui est extraordinaire, c'est de se regarder dans un miroir et puis de se dire, ben voilà, je t'aime tel que tu es.
Oui.
C'est une façon de réécrire en quelque sorte notre histoire. On l'a perçu, mais maintenant, nous, adultes, on est capable de se le donner à soi-même. Et je sais que le travail de Louise, c'est quelque chose de très percutant quand on a du mal à se faire du bien et à s'aimer, quoi, tout simplement.
Oui. Alors, une question intéressante qui revient. Là, je vois Chantal Caroline. Le fait de verbaliser du négatif en tapotant, n'est-ce pas contraire au mode de pensée positive pour créer du positif? C'est la fameuse question, si on dit des phrases négatives, est-ce qu'on ne va pas renforcer le problème? Et en même temps, il y a le débat dans l'EFT qui dit qu'il ne faut pas tapoter des phrases positives. comment réconcilier ça?
Alors, la psychologie positive, elle ne nous dit pas d'ignorer nos émotions négatives.
Bien sûr.
Elle nous donne simplement des outils pour aller vers le bonheur, mais en partant de là où on est. Et on a tous des émotions négatives. Alors, on sait bien, par exemple, moi je donne toujours l'exemple de la douleur. Si on est là avec une douleur et qu'on dit « je n'ai absolument pas mal », il se passe des choses quand même. Ça fonctionne pas comme ça. Alors avec l'EFT, on est vraiment sur le circuit énergétique. On n'est pas dans le mental. Et le fait de dire des phrases négatives, c'est pas dire des phrases négatives. C'est accueillir ce qu'on a en nous et ce qu'on ressent. Et trop souvent, on nous a appris depuis notre plus tendre enfance à ne pas accueillir nos émotions. Elles sont pas politiquement correctes. La colère, par exemple, c'est une émotion qui est pas correcte. La tristesse pour un garçon, surtout pas. Et avec l'EFT, on est sur le circuit énergétique où se trouvent en fait bloquées toutes ces émotions. Et en les accueillant, avec l'EFT, en fait, en les verbalisant, on les accueille. Et c'est la première étape pour pouvoir les dissoudre. On peut pas envisager de faire quelque chose en sens inverse. Bon, alors c'est vrai que moi je l'exprime avec mes mots. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant moi là depuis le début du congrès. Mais voilà, pour moi c'est vraiment important d'accueillir ce qu'on ressent, de pas l'occulter parce que si on l'occulte, eh ben il risque de faire des ravages à l'intérieur. Et avec l'EFT, on est dans un tel état que une fois que tout ça est accueilli, on peut commencer un travail pour dissiper tout ça et pour l'atténuer, pour l'apaiser.
Oui. Alors, il y a un très joli retour de la part de Catinelle. Merci. Ça fait 3 ans que je suis le congrès EFT et je m'aperçois que beaucoup de changements se sont opérés. Même si ce que je vis est atroce, douloureux et épuisant, je suis sereine et heureuse. Tous les jours, je laisse la vie m'offrir ce qu'elle a de meilleur à m'offrir. Ben, bravo, Catinelle, et merci pour ce retour. C'est vraiment le but de l'opération, de faire évoluer les choses.
Tout à fait.
Parce que même avec l'EFT, on n'a pas le pouvoir de faire disparaître les problèmes, bien sûr. Mais on a une arme pour mieux les vivre, pour mieux affronter les petits et les grands bobos du quotidien. Et c'est ça, la force de l'EFT.
Tout à fait. Alors, on a encore un petit peu de temps ou...
Oui, est-ce que tu peux citer le lien, on va mettre le lien dans le chat du site où on peut faire ce test dont tu as parlé.
C'est viam.org.
D'accord.
V-I-A-M-E.org.
C'est ça. Alors, viam.org. D'accord. Qui commence en anglais, mais on peut après le mettre en
voilà.
Français.
Voilà. Oui, oui, tout à fait.
Alors, pour Chris, est-ce que tu aurais un modèle de tapping pour que sa voisine ne décharge pas sa négativité sur elle?
Alors, oh bien oui, on doit pouvoir faire ça. Alors,
déjà,
Chris, ma voisine...
c'est pour parler du congrès virtuel de FT à votre voisine, hein, ça va l'aider.
Absolument. Alors, j'en reviens toujours à la même chose, c'est que on a un pouvoir de par notre intention, de par notre pensée. Si votre voisine décharge du négatif sur vous, ce qui est douloureux, c'est la façon dont vous le ressentez. J'ai une expression qui me vient, qui est la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Je ne sais pas si vous pouvez vous considérer comme une blanche colombe, Chris, mais en fait, voilà, c'est un petit peu ça. Je veux dire que la blanche colombe, si elle est parfaite, elle est parfaitement alignée, elle est parfaitement, la baffe du crapaud, ça ne va pas l'atteindre. Quand on est atteint et je vous rassure, hein, on vit tous des moments comme ça. Quand on est atteint par quelque chose, c'est très souvent ça vient résonner chez nous sur autre chose. Et l'EFT, à ce moment-là, dans la mesure où on le reprend bien à notre charge, où on se responsabilise, on va pouvoir essayer de travailler sur la façon dont on ressent cette chose-là. Et pourquoi on se sent tellement visé par cette négativité. Et moi, je sais que en travaillant là-dessus, il se passe des choses étonnantes à l'extérieur et que votre voisine, elle va en bénéficier en même temps. Mais c'est d'abord sur soi. C'est voilà, je sens du négatif. Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi je ressens ça? Vous savez, notre vision, c'est à peu près 10% de la réalité. Hein. On est limité par nos sens. Donc en fait, ce qu'on voit, qui nous vient de l'extérieur, c'est 10% de ce qui existe. Donc on a la possibilité de s'intéresser à autre chose. Et quand on accepte de recevoir des choses, c'est parce que quelque part en nous, ça résonne. Je ne sais pas si je suis bien claire, Maria, dans ce que je dis là,
mais moi, ça me parle, oui.
Ouais. Donc, si ce que je reçois me semble négatif, comment je peux faire pour voir autre chose, en fait, m'intéresser à autre chose, voilà. Je peux tapoter en disant, ben voilà, j'ai accueilli ce négatif dans ma vie, voilà. Ça ne veut pas dire que votre voisine n'a pas sa part de responsabilité. Hein. Comment?
Qu'est-ce qui vient m'apprendre? Négatif.
Voilà. Qu'est-ce qui vient m'apprendre? Qu'est-ce qui me dit de moi? Pourquoi il est là? Et c'est ce travail-là qui va faire que les choses, elles vont changer avec votre voisine. Et elles vont changer parfois de façon étonnante. Hein. Peut-être qu'elle va déménager, votre voisine. Peut-être que. Mais voilà, ça passe d'abord par nous. Par nous.
Oui, oui, tout à fait. Et il y a Lola qui partage dans le chat qu'elle a tapoté pour les chiens de sa voisine qui aboyaient et que ça la mettait en colère et ça a marché. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que la colère s'est calmée ou les chiens ou les deux, mais en tout cas, voilà, c'est la façon de faire.
C'est exactement, ça vient illustrer tout à fait ce que je viens de dire. C'est qu'il se passe des choses parfois étonnantes, mais voilà, quand quelque chose m'énerve, ben je tapote d'abord sur moi. Ça
oui,
m'énerve.
C'est ça. Bon, ben merci Florence d'avoir pris le temps de venir avec nous ce soir.
Merci Florence.
Avec beaucoup de plaisir, merci de m'avoir accueilli ici, de m'avoir permis de partager tout ça avec les auditeurs. Et voilà, merci aux auditeurs pour ce retour.
Oui, ouais, merci, c'est très précieux cette psychologie positive, et c'est vraiment génial d'en avoir parlé sur le congrès EFT. Merci Florence.
Ouais. Merci à vous Noël et Maria.